RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est une première. L'Islande a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de football. La petite île de l'Atlantique Nord, 330 000 habitants, fera partie du voyage pour la compétition en Russie. L'équipe d'Islande, qu'on appelle là-bas « nos garçons », s'était déjà qualifiée pour l'Euro. Elle avait même réussi à atteindre les quarts de finale après avoir battu l'Angleterre. Alors comment les Islandais, qui étaient il y a encore une demi-douzaine d'années dans les profondeurs du classement FIFA, ont-ils réussi cette performance? Frédéric Faux s'est rendu à Reykjavik pour parler avec les joueurs, les entraîneurs, les fans et tenter de percer les secrets du football islandais.
Si vous avez suivi l'Euro de football 2016, vous vous souvenez sûrement de ça. Le clapping, symbole de la communion entre les supporters islandais et leur équipe, avait marqué l'Euro. L'Islande avait atteint, à la surprise générale, les quarts de finale. Et la voilà maintenant en lice pour la Coupe du Monde en Russie. Samedi dernier, pour la première fois depuis cette qualification, l'équipe nationale était de retour dans le petit stade de Reykjavik. Seulement 12 000 places. Un match amical perdu 3-2 contre la Norvège, mais pour Ilmar, le plus important n'est pas là.
Ils ont été bons. Le gardien a fait une grave erreur, mais à part ça, l'équipe a bien joué. Quand on a été à l'Euro, c'était déjà incroyable et alors je ne pouvais même pas imaginer qu'on allait être à la Coupe du Monde. Tout est possible maintenant.
Depuis, beaucoup se sont penchés sur le cas islandais. Comment un si petit pays, où la population est moins grande que celle d'une ville comme Nice, a construit ses performances? Comment a-t-il pu battre de grandes puissances du football comme les Pays-Bas et surtout l'Angleterre? Une partie de la réponse se trouve sur ce terrain de foot dans la banlieue de Reykjavik. Si les voix résonnent comme dans une salle de hand ou de basket, c'est que ce terrain est entièrement couvert. Lorsque l'on arrive de l'aéroport, difficile de manquer cet immense hangar aux couleurs du club de Breiðablik. Depuis les années 2000, les municipalités islandaises ont construit 7 terrains couverts, identiques à celui-ci, et 7 autres de la surface d'un demi-terrain. Dans un pays planté au milieu de l'Atlantique Nord, où les jours en hiver ne durent que 4 heures, où la neige, le vent et la pluie peuvent décourager toute activité sportive, ces maisons du football ont changé beaucoup de choses. Håkon Sverrisson est responsable de la formation des jeunes à Breiðablik.
Cette maison du football a été construite vers 2001. Avant, la plupart des joueurs de foot devaient se mettre au hand, au basket ou à d'autres sports pendant l'hiver. On essayait de jouer au foot dehors de temps en temps, quand il ne faisait pas trop mauvais, sur des terrains couverts de gravier et de sable. On enlevait la neige et on jouait au foot sur un terrain gelé la plupart du temps.
Håkon a commencé à jouer ici à l'âge de 5 ans. Il a été capitaine de l'équipe senior de Breiðablik pendant 7 ans, puis entraîneur au club 20 ans de suite. Une fidélité et un engagement typique de la façon dont, en Islande, on aborde le sport.
On a 1550 licenciés dans notre club, donc ça fait beaucoup de gamins qui viennent jouer au foot. Ils viennent du quartier. En Islande, c'est comme ça. Vous rejoignez le club où vous habitez, où vous grandissez. Vous n'allez pas voir un autre. On utilise cette salle de 15h à 23h pour le foot. Le matin, ce sont les écoles qui viennent, les personnes âgées. Vous avez aussi les employés qui viennent jouer au foot à l'heure du déjeuner. Il n'y a jamais une minute de libre dans cette maison du football.
Si cette politique du sport pour tous est possible en Islande, c'est que tous les clubs, toutes les installations sportives appartiennent ici aux mairies. Et les résultats sont impressionnants. La part des adolescents qui font du sport en club au moins une fois par semaine est passée en 20 ans de 40 à 60%. Pour les passionnés qui s'y rendent 4 fois par semaine, la proportion est grimpée de 17 à 40%. La consommation d'alcool, qui était un problème dans les années 2000, a chuté. Le bien-être et les résultats scolaires du pays ont progressé. Un véritable choix de société qui satisfait Anna Rose, une avocate qui a inscrit sa fille au foot.
Je paie environ 450 euros par an, mais il est important de dire que la mairie donne aux parents un chèque de 400 euros chaque année que l'on peut utiliser pour inscrire ses enfants au sport, chez les scouts ou dans une école de musique. La plupart des mairies en Islande font ça. Pour ce prix, ma fille fait du ski, du football et de la gymnastique. trois fois par semaine, c'est le foot. Et c'est vraiment important qu'elle puisse jouer à l'intérieur pendant l'hiver. Sinon, ce serait trop froid pour une gamine de 5 ans.
Cet argent, autre spécificité du sport islandais, sert à payer des entraîneurs. Non pas des parents qui se contentent de renvoyer la balle, mais de vrais entraîneurs, qualifiés, diplômés. À Breiðablik, beaucoup sont d'ailleurs titulaires de la licence A de l'UEFA, l'une des plus complètes. Ce sont souvent des enseignants qui enfilent un survêtement après les cours et sont payés pour quelques heures d'encadrement. C'est le cas, par exemple, de Jona.
J'ai suivi beaucoup de cours ici en Islande. J'ai une licence A de l'UEFA et j'entraîne les filles de 6 et 7 ans. Les filles ici bénéficient du même temps d'entraînement que les garçons et d'entraîneurs tout aussi qualifiés. J'ai entraîné des filles plus âgées, mais maintenant je suis avec les petites. C'est vraiment super et amusant de leur apprendre à être de bonnes joueuses.
To teach them to be a good player.
Juste à côté, de jeunes gardiens de but de 7 à 8 ans sont formés par Gunnleifur Gunnleifsson. Il a été gardien de l'équipe nationale de 2000 à 2016. Il joue sa 24e saison dans ce club dont il est capitaine de l'équipe première. Mais ici, personne ne s'étonne de la présence de ce grand nom du football islandais et encore moins l'intéressé.
J'étais un bon gardien, donc j'essaie d'apprendre aux jeunes les bonnes positions parce que la position du gardien, c'est vraiment le plus important. Et si vous n'avez pas un bon gardien, vous ne pouvez pas gagner. Si vous voulez réussir, il faut faire les mêmes choses encore et encore et le faire bien. Donc, c'est très important d'avoir de bons entraîneurs, des entraîneurs ambitieux.
Very important to have the right trainer and to have ambitious people.
Un système bien rodé est supervisé par Dagur Dagbjartsson, chargé de la formation des entraîneurs à la Fédération islandaise de football.
Ici, les entraîneurs ont toujours été payés, mais ils font ça à mi-temps, ils ont un autre travail. Je crois que ça nous aide à garder les coachs dans les clubs. On n'a pas le problème de ces parents qui entraînent pendant 2 semaines, et après c'est un autre pour 2 semaines, et ainsi de suite. Bien sûr, on a des représentants d'autres fédérations de football qui viennent ici pour se rendre compte de ce qui se passe, mais nous savons qu'il est difficile de prendre ce système et de le transposer dans un autre pays. Parce que nous sommes un pays sans professionnels. Ici, le foot est amateur.
Le mot clé, celui qui explique peut-être le plus cette spécificité islandaise, est lâché, amateur. D'autres pays ont de bonnes installations ou de bons entraîneurs, mais ce statut du football en Islande est presque unique. Ici, pas de club professionnel qui viendrait puiser dans le vivier des plus modestes. Avec sa centaine de clubs, ses 25 000 licenciés, soit plus de 7% de la population, le football en Islande est surtout une affaire de passion. Pour Vidar Alderson, professeur de sociologie à l'Université d'Islande, c'est ce qui fait toute la différence.
Nous n'avons pas de sport professionnel en Islande. C'est unique dans le monde occidental. Dans nos centres sportifs communaux, tout le monde peut jouer, que l'on veuille devenir athlète ou simplement s'amuser. Tout le monde est ensemble, de l'âge de 4 à 20 ans. Je peux faire un match d'entraînement avec mon équipe de quartier et il y a un joueur qui essaye d'entrer dans l'équipe nationale. Il est peut-être dans l'équipe A et moi dans la C, mais on est ensemble aux entraînements, ensemble aux réunions, il n'y a pas de sélection. Nous n'avons pas de club professionnel comme dans les autres pays qui viendraient pour prendre les meilleurs joueurs quand ils ont 10 ans et les mettre dans un autre système. On ne peut pas avoir un milliardaire qui arrive de l'étranger pour acheter Breiðablik. Ça ne peut pas arriver car le club appartient à la communauté. Ça nous aide beaucoup. Ça aide les joueurs de l'élite à garder les pieds sur terre et ça donne à tout le monde une chance. Par exemple à ceux qui se révèlent sur le tard, comme le gardien de notre équipe nationale. Avec un autre système, nous passerions à côté de beaucoup de bons joueurs.
Pour Vidar Alderson, le succès du football islandais s'explique aussi par un moment particulier dans son histoire sportive. Depuis 1959, le handball masculin était le seul sport collectif islandais à se qualifier pour de grands championnats. Et puis tout a changé il y a 10 ans.
Since 2008, in women's handball, women's football, men's basketball.
Notre succès en football est un phénomène culturel. On a toujours été des amateurs et on manquait d'expertise. Puis, il y a 15 ou 20 ans, cette expertise professionnelle a commencé à arriver, notamment grâce aux joueurs islandais qui ont joué à l'étranger. C'est un grand moment car nous avons le meilleur des deux mondes. Nous avons des équipes qui sont professionnelles, dans ce sens qu'elles sont systématiques, organisées, mais ces équipes abordent aussi le sport comme un jeu, avec une bonne alchimie dans l'équipe. Le sport d'élite professionnalisé et commercialisé est devenu pourri, avec d'énormes égos, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne jouent plus avec l'équipe. Donc nous profitons de ce moment pour exploiter ces faiblesses.
Amateur ne veut pas dire amateurisme. Pour ne pas rater un seul talent dans cette si petite population, toute une organisation a été mise en place par la Fédération de football. Nous sommes sur une pelouse de banlieue, au sud de Reykjavik, au milieu de bars d'immeubles. Le match, qui oppose deux équipes d'adolescentes, n'a attiré qu'un maigre public. Ce sont essentiellement des parents, comme Bjorn, devenus un habitué de ce genre de rencontre.
Mes sœurs ont 10 enfants en tout, et tous les 10 jouent au foot. Et si je regarde ma famille élargie, il faut en rajouter 30 ou 40. C'est super. Mais le plus important, c'est la camaraderie entre enfants et l'exercice physique.
Mais au milieu des spectateurs, Torlakur Arnaldsson ne fait pas de la figuration. Chargé par la fédération de former les équipes nationales des moins de 15 ans, il est en repérage. Nous sommes à la toute fin du mois de mai. Il pleut et la température oscille autour de 7 degrés.
Aujourd'hui, c'est officiellement l'été en Islande, mais ce n'est pas franchement une journée d'été comme vous pouvez le voir. En tout cas, les joueuses, elles s'en moquent. Certaines sont même en short. Alors à ce niveau, comme ce sont des jeunes de 13-15 ans, on en suit beaucoup. Par exemple, dans ce groupe, moi je m'occupe d'une dizaine de joueuses, mais dans 2 ans, il en restera peut-être 3 ou 4. Aujourd'hui, la fenêtre est très large, tout le monde a une chance, mais elle va se rétrécir. Et moi, je fais ça dans tout le pays, car même dans les petits bourgs, avec une population de 1000 habitants, il peut y avoir de très bons joueurs. Parfois, au premier regard, vous savez, ce premier regard où l'on voit un joueur et on se dit « Waouh !» Ça, c'est important. Mais il faut aussi réfléchir. En tant qu'entraîneur d'une équipe de jeunes, je dois penser à ce qui va arriver dans 5 ou 10 ans.
Il y a très peu de joueurs qui sont professionnels en Islande. Est-ce que c'est un frein pour le développement de votre sport ici?
Ça, c'est pas un problème. On s'entraîne comme des pros, on joue comme des pros, mais c'est juste qu'on est des amateurs. Vous n'avez jamais à demander à un joueur islandais de travailler dur, de courir, de tacler. Parfois, il faudrait même lui demander de se calmer un peu et de penser un peu plus. On est juste des Vikings. On n'a pas besoin de motivation.
Les plus motivés peuvent donc progresser dans leur club de quartier et atteindre la première division islandaise. Nous allons rencontrer Arnþór Ari Atlason, milieu de terrain pour Breiðablik, qui est en ce moment l'équipe en tête du championnat. Mais là encore, il faut oublier les clichés liés au football professionnel. Pas de Ferrari garé sur le parking, pas de star blasé qui nous reçoit avec un casque audio sur la tête. Arnþór nous donne rendez-vous en costume cravate dans la banque où il travaille.
Welcome to Arion Bank.
Bienvenue à la banque Arion, c'est l'une des premières banques du marché en Islande. Je suis employé ici au service des clients, je m'occupe de tout ce dont ils peuvent avoir besoin.
C'est le quotidien de l'immense majorité des joueurs de première division en Islande. Semi-professionnel, Arnþór reçoit de Breiðablik un petit salaire, plus des primes pour les victoires. Mais ces quelques 1700 euros mensuels sont insuffisants pour vivre en Islande. Il a donc fait des études, travaille dans une banque, mais s'entraîne et joue comme un pro.
L'entraînement commence toujours à 17h. On a des fois un ou deux jours de libre dans la semaine, mais en temps normal, on s'entraîne tous les jours et il y a les matchs. Cet entraînement dure de 5 à 7 heures moins le quart. Après, je dois m'étirer, aller dans un bain chaud, puis un bain froid pour prendre soin de mon corps. Vers 20h, je suis de retour à la maison où je rejoins ma petite amie. Elle n'est pas contente que je sois footballeur, car après avoir travaillé toute la journée, je vais au foot. On passe peut-être une heure ensemble et après, je dois aller dormir. C'est dur. C'est comme un travail, sauf qu'on n'est pas vraiment payé pour ça.
Nous nous rendons quelques heures plus tard au stade de Breiðablik. Ce soir, l'équipe masculine va rencontrer KR en 16e de finale de la Coupe d'Islande.
So we are here at the game.
Okay. Voilà, on va descendre de la voiture.
Voilà, le travail est fini. Je suis passé à la maison et maintenant c'est retour au travail. Mais pour le foot, ça va être un match très difficile et important.
Voilà, donc là, c'est l'entrée des joueurs sous le stade. Les autres joueurs arrivent, souvent de leur travail eux aussi, sans avoir pris le temps parfois de se concentrer avant le match. Une situation que l'entraîneur Auguste Gylfason, 6 fois sélectionné en équipe nationale, comprend parfaitement.
Presque tous les joueurs sont au moins à mi-temps. Ils font des études ou ils ont un travail. C'est aussi le cas des entraîneurs. Moi, si j'ai un autre travail dans une entreprise d'électronique, je suis chef de produit audiovisuel. Le plus problématique, c'est le repos. C'est difficile d'être à 100% à l'entraînement pour les joueurs. On aurait besoin de plus de repos.
Ce quotidien n'empêche pas l'excellence. Environ 70 joueurs professionnels islandais jouent dans toute l'Europe. Certains sont devenus des piliers de l'équipe nationale ou de leur club, comme Gylfi Sigurdsson, le milieu de terrain du club anglais d'Everton. Comme le rappelait le sociologue Vidar Alderson, le système islandais permet aussi à des joueurs de se révéler sur le tard. C'est le cas de Hannespor Andersson. Gardien titulaire du Randers FC au Danemark, il occupe le même poste dans l'équipe nationale.
Je suis devenu footballeur professionnel il y a 4 ans, à l'âge de 29 ans, ce qui est plutôt inhabituel pour un joueur de l'équipe nationale. Quand j'ai joué les qualifications pour la Coupe du Monde 2014 contre la Croatie, j'étais réalisateur professionnel. Je faisais des publicités et des clips.
Pour cette Coupe du Monde, Hannes va devoir affronter les attaquants du Nigeria, de la Croatie et surtout l'Argentin Messi. Des adversaires qu'il respecte mais qui ne l'impressionnent pas.
Je crois que l'on peut mener la vie dure à chacune de ces équipes. On a vraiment cet esprit d'équipe, cette alchimie entre les joueurs. C'est vraiment la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans une équipe. Je joue aussi dans un club à l'étranger et on n'a pas cet esprit d'équipe. On n'obtient pas ça en appuyant sur un bouton. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut commander. Ça arrive naturellement.
Cet esprit d'équipe, cette confiance sont aussi ceux des supporters. Les fans de l'équipe nationale sont rassemblés au sein du groupe Tolfan. Traduction littérale, le 12e homme. Ilmar Stefansson en est le co-directeur.
Dès le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde, on a vu que notre groupe D, c'était le groupe de la mort. En Islande, on pratique le jeu dur et j'aime ça. C'est pour ça que notre équipe nationale est si bonne, ils se battent pour chaque ballon. Je pense qu'aujourd'hui, l'Islande peut battre n'importe quelle équipe. On est allé à l'Euro, maintenant la Coupe du Monde. Qui va nous arrêter maintenant?
Gudni Bergsson, ancien défenseur et président de la Fédération islandaise de football, n'est pas loin de penser la même chose.
Nous sommes très organisés, avec une défense difficile à percer. Quand on a le ballon, on essaye vraiment d'attaquer efficacement. Ça, ce sont nos armes. On essaye de se concentrer sur ce qu'on sait bien faire. Gylfi Sigurdsson est en ce moment notre joueur le plus créatif, le plus célèbre. Mais il n'y a pas de traitement spécial pour les stars et il n'y en aura jamais. Les joueurs s'assurent à ce qu'il n'y ait pas parmi eux une star qui se sente au-dessus des autres. C'est peut-être dû à notre tradition social-démocrate, à la proximité qu'entraîne notre petite population. Tout cela se reflète peut-être dans l'équipe, dans une certaine mesure.
Dire qu'une équipe nationale a le soutien du pays tout entier est peut-être un cliché, mais ce n'est pas le cas de l'Islande. Les footballeurs de l'Atlantique Nord ne sont pas surnommés les Vikings, comme on pourrait le penser, mais nos garçons. Un sentiment de communion et de filiation que partage même le chef de l'État. Tous les Islandais ont pu voir ce clip tourné par le président Gudni Johannesson et son épouse, tous deux vêtus du maillot de l'équipe nationale et tentant de jouer au foot dans un salon officiel.
Que l'on gagne ou que l'on perde, c'est toujours excitant de faire partie de quelque chose de grand, même quand vous êtes petit.
Venez faire la fête avec nous, tout le monde est bienvenu.
Une fête qui va commencer à Moscou le 16 juin contre l'Argentine pour le premier match de l'équipe nationale islandaise. Les secrets du football islandais, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffangeon. This is why we're not on the national teams.